Captain Diligafa speaking, trois points rapides avant de commencer l'épisode. D'abord, deux nouveaux Patreonneurs en la personne de Philippe. Merci Philippe pour ton soutien et bienvenue parmi nous et merci pour tes conseils avisés en marketing. Et également en la personne de Pierre Journel, que certains d'entre vous connaissent déjà puisque c'est le patron de la chaîne Guitare, l'amplificateur de passion. Les passions des fous de 6 cordes, de 12 cordes, de 7 cordes, enfin, etc., etc. Vous voyez de quoi je veux parler. Pour ceux qui sont vraiment fous de guitare et qui s'intéressent à l'instrument, je vous conseille vraiment d'aller visiter la chaîne Guitare. C'est un incontournable que Pierre construit depuis 10 ans et qui est vraiment formidable. Je crois savoir qu'il y aura bientôt une interview de quelqu'un d'extrêmement intéressant. Ensuite, un point sur une remarque que l'on m'a faite. On m'a dit, dans certains épisodes, tu cites énormément de noms, et cela, c'est vraiment perturbant pour l'auditeur. Alors j'ai bien réfléchi, et je me suis dit, en fait, pour moi, c'est assez inévitable de citer les noms. Quand je dis que tel jour, tel morceau a été enregistré, et que je cite le line-up complet, il n'y a aucune raison que je passe sous silence le bassiste ou le batteur, parce que l'amateur de musique qui connaît un peu le sujet, il a envie d'entendre ces noms. Après, pour la personne qui a juste envie d'entendre une histoire, je me doute que c'est beaucoup plus facile de ne pas être noyé sous tous ces noms qui sont cités. Alors dites-vous une chose, en fait, ne vous embêtez pas avec ça. S'il y a un nom qui est important, ce nom sera répété plus d'une fois dans l'épisode. Parfois, vous avez même des noms qui reviennent dans plusieurs épisodes. Donc, c'est tout à fait juste et je le fais par rapport à cet épisode sur les Platters. Les Platters, c'est un groupe à géométrie variable où il y a eu un line-up qui a beaucoup changé. Donc, c'est important d'expliquer tout ça et de citer les noms. Maintenant, dites-vous que les noms des gens importants dans les Platters vont être cités plusieurs fois et qu'à la fin, vous retomberez sur vos pieds. Donc, il ne faut vraiment pas vous embêter avec ça. Aujourd'hui, donc, on va parler d'un groupe tellement important. Important pour l'histoire du rock, évidemment, et ça, on va en parler dans l'épisode, mais surtout important pour moi, dans des proportions incroyables. C'est mon père qui m'a fait découvrir les Platters, un double 33 tours. Des chansons qui s'enchaînent comme des évidences. Only You, The Great Pretender, The Magic Touch, Smoke Gets in Your Eyes, mais aussi Twilight Time, ou même My Prayer, qui s'ouvre sur des arpèges au piano emprunté à Chopin. Mon papa a toujours été un amoureux des belles voix et des mélodies. Et avec les Platters, on peut dire qu'on est servi. Je me souviens que, quand j'étais tout môme, je lui avais demandé s'ils existaient encore, s'il était possible de les voir. Et il m'avait dit, ben non, la drogue les a séparés, il y en a certains qui sont morts d'overdose. Pour tout vous dire, je savais même pas trop ce que ça voulait dire, la drogue, mais bon, j'ai pris ça pour argent comptant. Et en fait, nous allons voir que c'est une toute autre histoire. Alors, à l'époque, ce qui a été raconté, c'est l'histoire qui plaisait aux journaux de l'époque en tout cas. La marijuana qui gâche tout, la drogue, les overdoses, etc. Il y a un bruit à un moment dans l'épisode qui est dû aux travaux qui ont eu lieu pendant l'enregistrement. Ne soyez pas surpris, ça fait un genre de boom, et puis ça s'arrête, ça passe. Cet épisode vous est offert par mes Patreonneurs. Vous pouvez en faire partie, il suffit de se rendre sur patreon.com/undernierdisque et vous pourrez profiter d'épisodes bonus sur Johnny Cash, sur Tom Waits, sur Freddie King, sur Mellencamp, etc., etc. Bonne écoute.
A-t-il un chat? Et pour un flirt avec toi, ferais-je vraiment n'importe quoi? Autant de questions auxquelles nous ne répondrons probablement pas. Bonne écoute!
<t'en>
L'histoire des Platters est intimement liée à une autre histoire dont nous avons parlé la dernière fois, celle des Penguins et de Earth Angel. Vous voudrez peut-être réécouter cet épisode ou l'écouter pour la première fois afin de mieux comprendre celui-ci. Car il raconte en grande partie la même histoire mais d'un point de vue différent. Et dans les deux cas, Buck Ram finit par être le méchant. Comme je l'ai mentionné dans cet épisode, il y avait beaucoup de mouvements entre les différents groupes vocaux. Et les Platters étaient loin d'être une exception. Il est difficile de parler de la façon dont ils se sont formés, comme je le ferai normalement, en parlant de ces trois personnes qui se sont rencontrées et qui ont ensuite demandé à un ami de les rejoindre, de leur personnalité, etc., etc. Les Platters ont débuté sous le nom The Flamingos. Bien sûr, il ne s'agit pas du même groupe The Flamingos plus connu, mais d'un groupe différent, composé de Cornel Gunter et Gennel Hodge, qui faisaient également partie des Hollywood Flames à la même époque. Axel Hodge, le frère de Gennel, Joe Jefferson, Richard Berry et Curtis Williams. Mais très rapidement, les Flamingos ont commencé à perdre des membres au profit d'autres groupes plus populaires. Le premier à partir a été Curtis Williams, qui a rejoint les Hollywood Flames, puis les Penguins. Richard Berry, quant à lui, forme un groupe appelé les Hollywood Blue Jays et intègre Cornel Gunter dans le groupe. Ils enregistrent un single pour la maison de disques de Joe Dolphin avant de se rebaptiser les Flares et de passer au disque Flair. Les Flamingos ont donc produit de grands talents. Mais le départ de ces derniers a laissé des trous béants dans la formation. Les Flamingos ont fini par se doter d'une nouvelle formation, composée de Gennel Hodge, Axel Hodge, David Lynch, pas le réalisateur de Twin Peaks, et Herb Reed. Cette formation n'était pas très bonne cependant, et ils n'avaient pas un seul chanteur qui était assez fort pour prendre le lead. Malgré cela, la demande de groupes vocaux était telle à l'époque qu'ils ont signé avec Ralph Bass, qui travaillait alors pour Federal Records, produisant, entre autres, une chanteuse appelée Linda Hayes. Elle était l'une des personnes qui avait essayé de tirer profit de la mort de Johnny Ace dans un disque hommage Why Johnny Why, et elle était aussi celle qui avait remplacé Eunice dans Gin and Eunice quand elle était en congé maternité. On la voit apparaître un peu partout lorsqu'il y a eu un phénomène de mode, et à l'époque dont nous parlons, elle venait d'avoir un véritable succès grâce à cette activité. Willie Maben venait d'avoir un tube avec le tube I Don't Know.
I'm getting sick and tired of the way you do. Good kind papa got a poison you. Sprinkle goopa dust all around your bed. Wake up one of these mornings, find your own self dead. She said you shouldn't say then. I said, what should I say this time, babe? She says, I don't know, my oh my oh my, I don't know what my baby put down.
Il avait atteint la première place du classement R&B et avait donné lieu à une reprise country d'ailleurs par Tennessee Ernie Ford. Hayes avait donc sorti de son côté un disque de réponse, Yes I Know What You're Putting Down.
You've been complaining about the way I do. Been a real good woman, I've been spoiling you. Treating you like a king and served your meals in bed. You sitting here talking about me finding my own self dead. Yes, you shouldn't say that. Talking about what should I say this time, baby. Yes, I know. What you've been putting down?
La réponse de Hayes se hisse à la deuxième place du hit-parade et elle devient soudain une personne avec laquelle il faut compter. Il s'avère qu'elle n'aura qu'un seul autre succès en 1954. Mais elle a présenté Ralph Bass à son frère Tony Williams qui voulait lui aussi devenir chanteur. Williams rejoint les Flamingos en tant que chanteur principal et leur premier enregistrement est le refrain vocal sur Nervous Man Nervous de Big Jay McNally, l'un des plus grands saxophonistes de tous les temps qui avait auparavant joué avec le groupe de Johnny Otis.
Contact the rhythm section!
Roger!
Drop torpedo, blimp!
Dig their cat, he's...
Nervous!
Peu de temps après, les Flamingos devaient avoir leur première session d'enregistrement, mais un problème se posa. Il n'y avait qu'un nombre limité de noms d'oiseaux, et donc ils ne pouvaient pas être un bird group, c'était assez compliqué d'en trouver un nouveau. Il n'est donc pas surprenant que quelqu'un d'autre utilise le nom The Flamingos, et que ce groupe ait sorti un disque à succès. Ils ont donc décidé que puisque les disques étaient souvent appelés des platters par les DJ, ils pouvaient tout aussi bien s'appeler ainsi. Le premier disque des Platters n'a absolument rien donné.
I like a little girl that can quit. I like a little girl that's easy to learn.
Ils sortent quelques autres enregistrements, mais rien ne marche. Et personne, y compris Ralph Bass, ne le trouve bon. Gaynell Hodge en a finalement eu assez de partager son temps entre plusieurs groupes et a quitté le groupe pour continuer avec les Hollywood Flames. Le groupe semble sur le point de disparaître et Tony Williams va donc voir le manager de sa sœur, Buck Ram, et lui demande s'il accepterait d'être le manager de Williams en tant que chanteur solo. Ram l'écoute, il dit qu'il est intéressé, mais que Williams doit se trouver un groupe avec lequel chanter. Williams a répondu que, il y a déjà un groupe. Ram a parlé à Ralph Bass et a pris les Platters comme projet pour lui-même. Ram est inhabituel parmi les managers de cette époque, en ce sens qu'il était lui-même un musicien et un auteur-compositeur assez doué. Il avait obtenu un diplôme de droit, principalement pour faire plaisir à ses parents, mais Ram était avant tout un auteur-compositeur. Bien avant de se lancer dans la promotion musicale, Ram écrivait des chansons et les faisait interpréter par des musiciens dont vous avez sans doute entendu parler. Il semble avoir fait partie de la scène musicale new-yorkaise à la fin des années 30 et au début des années 40, ayant rencontré Duke Ellington dans un cours d'arrangement qu'il suivait, ayant été présenté par Ellington à des gens comme Chick Webb, Cab Calloway et les éditeurs d'Ellington, Mills Music. Le premier grand succès de Ram en tant qu'auteur-compositeur est « I'll be home for Christmas », qui a été un succès pour Bing Crosby et qui deviendra plus tard un standard chanté par Elvis et bien d'autres.
I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow.
L'histoire de I'll Be Home for Christmas est d'ailleurs assez controversée. Ram avait écrit seul une chanson intitulée I'll Be Home for Christmas, Though Just in Memory, et en avait enregistré le copyright en décembre 1942, mais il ne l'avait pas fait enregistrer. Quelques mois plus tard, il en a parlé à une de ses connaissances, Walter Kent et Kim Gannon, et a été choqué lorsque Bing Crosby a sorti un single écrit par eux qui ressemblait fortement à sa chanson. Ses éditeurs, Mills Music, ont intenté un procès et ont obtenu que Ram soit crédité sur ses futures sorties. Buck Ram a fini par se battre dans de nombreux procès avec de nombreuses personnes. C'était un habitué, un abonné des tribunaux. Mais si ce grand mérite est le résultat d'un procès, Ram était aussi, pour autant que je sache, un auteur-compositeur de talent. Alors que d'autres managers ont été crédités pour des chansons qu'ils n'avaient pas écrites et que, dans certains cas, ils n'avaient même jamais entendues, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de suggestion que Buck Ram n'était pas le seul auteur des chansons des Platters pour lesquelles il est crédité. J'ai tellement l'habitude que cela fonctionne dans l'autre sens avec des managers qui s'attribuent le mérite des travaux qu'ils n'ont pas faits et les droits des chansons que j'ai encore du mal à affirmer avec certitude qu'il n'y avait pas quelque part une sorte d'escroquerie. Mais Ram avait des crédits d'écriture de chansons bien avant d'entrer dans le monde des affaires. Voici par exemple une chanson qu'il a écrite avec Chick Webb et qui a été chantée par Ella Fitzgerald.
Chew your bubble gum, chew, 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 chew your bubble gum, chew, 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 chew your bubble gum, chew, 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 baby. Chew, 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 chew your bubble gum, chew, 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 chew your bubble gum, chew, 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 chew your bubble gum, chew, 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 baby. First you pop, then you stop, the gum gets big and round. Blow your troubles away like bubbles when you hear that funny little sound.
Il a passé plusieurs années à travailler comme auteur-compositeur et arrangeur à New York, mais il a commis l'erreur de partir vers l'Ouest avant de se lancer dans la musique de film pour se rendre compte qu'il n'arrivait pas à percer sur ce marché et qu'il devait plutôt retourner vers le management. Faire de la musique plutôt que de la gérer était vraiment son premier amour et il considérait les Platters comme un moyen d'y parvenir, une matière première qu'il pouvait façonner à son image, un groupe dont il allait jouer comme on joue d'un instrument. Ram a signé un contrat de 7 ans avec les Platters, qui sont désormais un groupe de 4 personnes composé de Williams, Alex Hodge, David Lynch, pas le réalisateur de Twin Peaks, et Herb Reed, et a commencé à essayer de les transformer en un groupe à succès. Le premier single qu'ils ont sorti après avoir signé avec Ram était un single qui, assez curieusement, comportait Herb Reed au chant principal sur les deux faces plutôt que leur chanteur habituel, Tony Williams.
Mop, 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 mop.
Lord, there's a shining Piccadilly in the blush of the sweet morning dew. Roses are blooming in Piccadilly, but there's never a rose like you.
Le problème, c'est qu'ils ne sont pas très doués pour le chant. C'est un comble. À l'époque, ils ne savaient pas comment chanter en harmonie. Ils chantaient chacun leur tour et souvent, ils n'arrivaient même pas à chanter dans la même tonalité. Ça n'a pas eu beaucoup de succès, mais Ram a eu une idée. Dans les années 40, il avait géré et écrit pour un groupe appelé les Quintones. Il y a eu plusieurs groupes de ce nom au fil des ans, mais celui-ci était un groupe vocal blanc composé de 4 hommes et d'une femme. Ils n'ont pas eu beaucoup de succès, mais voici l'un de leurs rares enregistrements. Midnight Jamboree, écrit et réarrangé par Ram. Le fait de travailler avec les Quintones a donné à Ram le goût du mélange vocal particulier qui résulte de la présence de 4 hommes et d'une femme. C'était un style de groupe populaire dans les années 40, grâce à l'influence des Moderners, le groupe vocal qui chantait dans le Glenn Miller Orchestra, mais il était tombé en désuétude dans les années 50. Ram a décidé de reformer les Platters sur ce modèle, sur cette base. La femme qu'il choisit d'intégrer au groupe est une chanteuse que Gaynell Hodge connaît bien et qui s'appelle Zola Taylor. Taylor avait enregistré en tant qu'artiste solo, sans grand succès, mais elle avait une excellente voix sur ses enregistrements pour RPM Record. Avec Zola dans le groupe, le son vocal idéal de Ram est presque complet. Mais il n'était pas encore tout à fait complet. Après tout, il restait encore un membre original. Et Alex Hodge ne tiendra pas longtemps, car il est arrêté pour possession de marijuana et il est remplacé au pied levé par Paul Robey. Gaynell Hodge affirme aujourd'hui que ce n'était pas la vraie raison du retrait d'Alex Hodge. Il dit que Ram et Herb Reed ont conspiré pour se débarrasser d'Alex, qui, selon Gaynell, était le fondateur du groupe parce qu'il en savait trop sur le monde de la musique et qu'il commençait à soupçonner Ram de l'arnaquer. Quoi qu'il en soit, le dernier membre d'origine est maintenant parti. Et donc, les Platters, version 2, sont désormais Tony Williams, Zola Taylor, Herb Reed, Paul Robey, et David Lynch. Non, pas Twin Peaks. C'est désormais la formation qui restera ensemble pour le reste des années 50 et au-delà. Mais avant ce changement, les Platters avaient enregistré une chanson dont le son était si mauvais que Ram avait persuadé le label de ne surtout pas la sortir. Le titre de la chanson ? Only You. Only You était une chanson que Ram avait écrite avec l'intention de la transmettre aux Ink Spots. Mais pour une raison quelconque, c'est-à-dire une raison que je n'ai pas trouvée, une raison que je ne connais pas, il n'y était jamais parvenu. Bien qu'il ait déjà écrit pour les Ink Spots auparavant, puisqu'ils avaient sorti sa chanson I Lose a Friend Tomorrow en 1946.
I'll lose a friend tomorrow, but what can I do? I'll lose a friend tomorrow because I love you. I cried, yes, I cried.
Il a déclaré plus tard qu'il avait décidé de ne pas donner Only You aux Ink Spots parce qu'ils s'étaient séparés avant qu'il n'en ait eu l'occasion. Ce n'est pas exact, les Ink Spots étaient encore là lorsque les premiers enregistrements de la chanson par les Platters ont été faits. Plus probablement, les Ink Spots pensaient que la chanson n'était pas bonne. Après l'avoir écrite, il a mis les partitions dans une boîte et elles y sont restées jusqu'à ce que Jean Bennett, son assistante, déplace des objets et que la boîte tombe en morceaux. Bennett a regardé la chanson et a dit qu'elle avait l'air intéressante. Ram a dit « Non, non, c'est n'importe quoi ». Mais Bennett a posé la partition sur le piano de Ram et quand Tony Williams l'a vu, il a insisté pour l'enregistrer. Mais ce premier enregistrement confirme l'avis de Ram selon laquelle la chanson était terrible. Écoutez plutôt, c'est la version originale par les Platters, version 1.
Only you can make this world seem right.
À cette époque, le groupe enregistrait également des titres en soutien à Linda Hayes et il y avait même un duo frère-sœur crédité à Linda Hayes et Tony Williams, des Platters. Une fois de plus, Hayes essaie de prendre le train en marche en enregistrant une chanson de type Ainey avec les Platters au cœur dans l'espoir d'obtenir une partie de l'argent qui va à Hank Ballard et Etta James. Mais aucun de ces disques ne s'est vendu. Et malgré tous les efforts de Ram, il semblait que les Platters n'allaient tout simplement pas avoir de succès discographique de sitôt. Federal les a abandonnés, car il semblait probable qu'ils n'allaient rien accomplir. Mais ensuite, le groupe a eu beaucoup de chance. Buck Ram est devenu le manager des Penguins, un autre groupe qui s'était transformé à partir de la souche de chanteurs de Los Angeles. Les Penguins venaient d'avoir ce qui s'est avéré être leur seul grand succès, Earth Angel, dont nous avons parlé la dernière fois, et Mercury Records étaient impatients de les signer. Ram accepte le deal, mais seulement à la condition que Mercury signe également les Platters. Son vrai projet, c'est les Platters. Une fois qu'ils ont été signés, Ram a complètement abandonné les Penguins, qui n'ont jamais plus eu de succès. ils avaient servi son objectif et permis au groupe auquel il tenait vraiment de signer sur un grand label. Il y a eu une pause de 6 mois entre les dernières sessions que les Platters ont faites pour Federal et la première qu'ils ont faite pour Mercury. Pendant cette période, il n'y a eu qu'une seule session en tant que choriste pour Joe Houston sur ce titre, Stig-a-Boom. Et les Platters ont passé ces 6 mois à travailler, à s'entraîner. Et quand ils sont rentrés en studio pour enregistrer pour Mercury, bizarrement, ils ont soudain sonné bien mieux.
Only you can do make all this world seem right. Only you can do make the darkness bright. Only you and you.
Tout s'est mis en place. Ils étaient maintenant un groupe professionnel et élégant. Ils étaient même devenus assez bons pour incorporer des erreurs lorsqu'ils travaillaient. Sur une première prise, la voix de Williams s'est éraillée sur le mot « only » et il s'est excusé auprès de Ram qui lui a répondu « Non, ça c'est super, ça sonne bien, il faut que tu utilises ça. » Et « Only You » est devenue l'une de ces chansons qui définissent une époque. Plus que toutes les chansons de doo-wop, c'est la quintessence de la ballade douce des années 50. C'est un énorme succès. Elle a passé 30 semaines dans les charts R&B, dont 7 à la première place, et 22 semaines dans les charts pop, culminant à la 5e place. Federal a sorti précipitamment l'horrible enregistrement original pour en tirer quelque chose, et Ram et Mercury les ont poursuivis en justice, qui a finalement tranché en faveur de Federal, l'autorisant à sortir la première version, mais le juge a également déclaré que cette décision pourrait bien s'avérer plus dommageable pour Federal que pour Mercury, vu ce qu'il avait écouté. La version de Federal n'a figuré, bien évidemment, dans aucun classement. La suite de Only You, également écrite par Ram, a été encore plus énorme.
I'm the great pretender, pretending that
Et c'est le début de toute une série de succès. The Magic Touch, Twilight Time, Smoke Gets in Your Eyes. La plupart de ces succès n'ont pas été aussi durables que les deux premiers, mais ils étaient régulièrement en tête des hit-parades pop. Les Platters étaient à bien des égards l'équivalent des Ink Spot dans les années 50, et bien qu'ils aient commencé par être commercialisés comme un groupe de rock'n'roll, ils se sont rapidement tournés vers le marché plus lucratif des adultes en enregistrant des albums de standards. Mais après avoir imité les Ink Spot dans leur plus grand succès, les Platters ont malheureusement également imité les Ink Spot dans la façon dont tout est parti en vrille. Malheureusement, le seul livre que j'ai pu trouver qui parle des Platters de manière approfondie a été écrit par quelqu'un qui travaille pour l'organisation de Buckram. Il a donc, on va dire, un point de vue particulier et partial sur certains litiges juridiques qui ont suivi pendant les 60 années suivantes. J'ai essayé de contrer cela en parcourant au moins certains des documents judiciaires disponibles en ligne, mais il n'est pas vraiment possible de se faire une idée précise. Et que ce soit à partir des documents judiciaires de 2011 ou au milieu des années 80, ou d'un livre auto-publié et autant défensif de 2015 de ce qui s'est réellement passé entre les cinq Platters, Ram et l'assistante de Ram, Jean Bennett, à la fin des années 50. Ce sur quoi tout le monde semble s'accorder, c'est que, peu après la signature du contrat des Platters avec Mercury, une société a été créée, Five Platters Incorporation, contrôlée par Buckram et dont tous les membres des Platters étaient actionnaires. Les Platters, à l'époque, ont cédé à cette société tous les droits qu'ils avaient sur le nom du groupe. Mais ensuite, en 1959, Tony Williams, qui avait toujours voulu faire une carrière solo, a décidé de la poursuivre plus vigoureusement. Il allait quitter le groupe et il a sorti un album solo. En effet, Buckram semble avoir eu l'intention, dès le début, de faire de Williams un artiste solo, tout en conservant les Platters comme groupe à succès. Il a essayé de trouver un remplacement pour Williams en 1956, mais cela n'a pas fonctionné. Pendant un certain temps, Williams a quand même continué à faire partie des Platters, tandis qu'il cherchait un remplaçant. Mais sa carrière solo n'a pas fait merveille au début. Et il n'a pas été aidé par l'arrestation des quatre Platters masculins, prétendument comme clients de travailleuses du sexe, mais en fait surtout parce qu'ils partageaient leur chambre d'hôtel avec des femmes blanches. Toutes les charges contre les personnes impliquées ont d'ailleurs été abandonnées par la suite, mais cela signifie que ce n'était probablement pas le meilleur moment, en tout cas pour Williams, de commencer une carrière solo. Mais en 1961, Williams avait réussi à s'extraire des Platters et avait été remplacé par un jeune chanteur appelé Sonny Turner, qui pouvait ressembler un peu à Williams. La maison de disques était tellement convaincue que Williams était le membre le plus important des Platters que, sur bon nombre de leurs enregistrements, pendant un an ou deux, Mercury prenait des enregistrements terminés de la nouvelle formation des Platters et y ajoutait une nouvelle voix principale de Williams. Mais un par un, les membres du groupe sont partis, suivant Williams. Et à mesure que les membres partaient, ces crétins cédaient leur part de Five Platters Incorporation à Buckram, ou à l'une des sociétés de Ram. En 1969, Herb Reed était le seul membre de la formation classique encore dans le groupe. Puis il a quitté le groupe lui aussi, et Buckram et ses sociétés ont continué à produire des groupes sans membres originaux sous le nom de Platters. Cela ne veut pas dire que les vrais membres ont cessé de tourner sous le nom des Platters. Après le départ de David Lynch, oui, pas Twin Peaks, en 1967 par exemple, il a formé un groupe appelé The Original Platters, dans lequel il a intégré Zola Taylor et Paul Robey. Tony Williams, Herb Reed et Sonny Turner ont également formé leur propre groupe qui ont tourné sous le nom de Platters, faisant ainsi concurrence aux Buckram Platters Officials. Il s'en est suivi 40 ans de litige entre les sociétés de Ram et les différents membres des Platters. Et les jugements sont allés dans les deux sens, à tel point que je ne peux pas porter de jugement précis à partir des documents que j'ai pu trouver en ligne. D'après ce que j'ai compris, un tribunal a décidé en 1974 que l'objectif de Five Platters Incorporation était bien de priver illégalement les membres du groupe de leurs droits de propriété sur le nom du groupe, qu'il s'agissait d'une société fictive, vide, et que Buckram avait illégalement bénéficié d'une position de négociation injuste. Peu après, il a été décidé que la marque Five Platters Incorporation, sur le nom des Platters, était nulle. Mais d'autres jugements sont allés dans l'autre sens et Five Platters Incorporation a insisté sur le fait que les membres du groupe étaient partis pour la plupart parce qu'ils étaient alcooliques et ne voulaient plus partir en tournée et qu'ils avaient renoncé de leur plein gré à leurs droits, etc., etc. Pendant ce temps, plus d'une centaine, oui, vous avez bien entendu, une centaine de faux groupes Platters sans aucun membre originaux ont pris la route à différents moments. Il y a eu presque autant de faux Platters que de faux Inkspots. Le problème de nom de groupe ont finalement été résolus en 2011. À ce moment-là, Buckram était mort depuis longtemps. Et de même que tous les autres membres de la formation classique des Platters, à l'exception de Herb Reed. Un juge a finalement décidé que Herb Reed avait les droits sur le nom et que Five Platters Incorporation n'avait jamais été propriétaire du nom. Juste avant ce jugement, Five Platters Incorporation, qui était maintenant dirigé par Jean Bennett, la secrétaire de Ram, a annoncé qu'ils allaient retirer le nom. Herb Reed est décédé en 2012, soit très peu de temps après. Et bien que la société à laquelle il a cédé la licence du nom autorise toujours un groupe à tourner sous le nom des Platters. Genel Hodge, cependant, est toujours en vie. Le dernier membre survivant des Platters originaux. Et il se produit toujours avec son propre groupe, Platters, interprétant des chansons que les Platters ont enregistrées après son départ. Son site web n'a pas été mis à jour depuis 2005, mais à l'époque, la dernière nouvelle était qu'il avait coécrit une chanson avec Dr. John pour Chimica Copeland. Genel Hodge était une figure majeure de l'industrie musicale californienne. Il apparaîtra dans toutes sortes d'endroits bizarres dans l'histoire du rock, car il a participé à de nombreux enregistrements très importants. Et pendant ce temps, il y a quelque part dans le monde de multiples groupes de personnes qui n'ont jamais rencontré aucun des Platters originaux et qui chantent « Only You » en ce moment même et qui se font appeler les Platters. Note de bas de page, il n'existe pas de livre sur les Platters à ma connaissance. Alors, comme je le fais si souvent, lorsque je parle de groupes vocaux, je me suis largement appuyé sur le site web de Marv Goldberg. Pour les détails de la vie de Buckram, je me suis appuyé sur The Magic Touch of Buckram Songwriter, le fameux livre auto-publié, crédité à J. Patrick Carr, mais dont le copyright est au nom de Gail Schreiber, Schreiber ayant travaillé pour Buckram pendant de nombreuses années. Et elle et Carr ont publié de nombreux livres avec des styles d'écriture et des mises en page très très similaires qui font l'éloge de Ram et de son assistante, Jean Bennett. Ces livres sont très pauvres en texte et riches en photos. Ils proviennent de la collection personnelle de Bennett et ils donnent une version de l'histoire qui est, on va dire, très orientée. Mais ils contiennent également des détails qui ne sont pas disponibles ailleurs. Si vous parlez anglais, une interview de Genel Hodge sur YouTube qui donne sa version de l'histoire est disponible sur un lien que je mettrai sur le site underneddisc.com. Les liens vers certains documents judiciaires pour essayer de comprendre la propriété légale des Platters, si ça vous amuse, sont également disponibles. Il existe de nombreuses compilations bon marché sur les tubes des Platters. Il existe également de nombreuses compilations de versions réenregistrées par des Platters que personne ne connaît. Des personnes qui ne faisaient pas partie des Platters. Faites donc bien attention aux dates d'enregistrement et aux liner notes. Et si vous avez un doute, envoyez-moi un email. Yeah.